E-Radio, l'invité de la rédaction.
Yvan Bourgnon est un navigateur qui a sillonné les mers du globe. Nous l'avons retrouvé sur la plage de Saint-Brévin, près de Nantes, où il était de passage. Nous avons parlé avec lui de la pollution des océans par le plastique et des projets qu'il porte avec The Sea Cleaners, l'association qu'il a fondée pour tenter de répondre à cette problématique.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire, votre parcours, et puis ce qui vous a amené à lancer ce projet, donc The Sea Cleaners, aujourd'hui?
Bah en fait, moi, j'ai eu cette chance en fait d'être un peu un enfant de la mer, d'avoir des parents qui m'emmènent faire le tour du monde en voilier de l'âge de 8 à 12 ans. Donc ma vie, c'était ça en fait. Moi, avant d'aller dans la compétition, j'étais vraiment sur l'eau, à apprendre à vivre sur l'eau, à naviguer au sextant, à naviguer avec les éléments, à vivre de rien en fait. Mes parents n'avaient rien quand ils voyageaient. Et puis en fait, la compétition, après, j'ai adoré pendant 20 ans, mais j'ai eu un retour aux sources un peu en me disant j'ai envie de mettre un peu de contenu, de matière et d'expédition dans tout ça. Et donc je suis revenu dans le mode aventurier pendant 10 ans. Et puis malheureusement, j'ai eu la chance et la malchance de voir des océans qui étaient parfaitement propres quand je naviguais avec mes parents, quand j'étais petit. Et puis 33 ans après, quand je reviens sur les mêmes eaux, que je refais un tour du monde sur mon petit catamaran de sport en 2014, je fais face à une pollution qui est visible, qui est plutôt le long des côtes du Sri Lanka, des Maldives ou de l'Indonésie. Là, je navigue dans les océans de plastique et là, je me dis, waouh, en fait, putain, c'est le bordel maintenant, quoi. On a vraiment pollué totalement ces océans. Il y a des plastiques de partout. Il y en a qui flottent, il y en a qui coulent, il y en a partout. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai été choqué. Et quand je suis rentré en 2015 de mon tour du monde, j'ai décidé de lancer l'association The Sea Cleaner pour lutter contre et se battre pour la protection des océans.
Et alors, cette pollution plastique, quand on parle d'océan de plastique, enfin, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Vous parlez de quelque chose de visuel comme ça, mais peut-être si on quantifie en termes de chiffres aussi, enfin, voilà, si on veut donner un ordre de grandeur.
Tout simplement, c'est 10 millions de tonnes de plastique chaque année qui partent dans les océans. Ça sera 3 fois plus en 2060, 10 fois plus en 2100. Donc on ne va pas dans le bon sens. C'est 1500 espèces impactées. C'est 1 500 000 animaux marins, oiseaux et animaux qui meurent chaque année. C'est la toxicité de ces plastiques qui se libèrent dans la mer, qui va forcément impacter ces animaux en premier lieu, mais aussi le tourisme, mais aussi la pêche. Et voilà, et aujourd'hui, on sait que la protection, les océans sont tout aussi, voire plus importants que l'Amazonie, pour notamment lutter contre le carbone. C'est quand même l'enjeu climatique majeur, c'est le réchauffement climatique, c'est le carbone. Et on sait que c'est un puits de carbone phénoménal, les océans. On peut absorber 50% du carbone généré par les humains avec les océans. Donc on se doit en fait de protéger cet écosystème. On n'a malheureusement pas été bon sur Terre, puisqu'il y a globalement 60% des espèces animales sauvages qui ont disparu sur Terre dans les 40 dernières années. Donc sur les océans, c'est pas encore le cas. Donc essayons d'être malins et de faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi.
Quelles sont les zones les plus impactées alors par le phénomène?
Alors les zones sur la problématique des plastiques, c'est principalement l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, mais c'est de plus en plus l'Afrique, hein, puisque l'Afrique va exploser en termes de consommation de plastique dans les décennies à venir. L'Amérique du Sud, voilà, tous les pays en voie de développement principalement. Alors il y a des pays qui sont de mieux en mieux, comme l'Europe, mais il y a des pays, c'est de pire en pire. Et malheureusement, la consommation de plastique augmente par habitant. On consomme notre poids aujourd'hui chaque année en kilos de plastique, mais on va en consommer plus demain. Et surtout, comme la démographie explose, hein, on va passer à 7, 8, 9 milliards d'habitants, forcément, le plastique va arriver de plus en plus. Donc du coup, et puis les petits Africains qui ne consommaient pas trop de plastique jusqu'à présent vont consommer beaucoup plus. Donc malheureusement, les solutions de recyclage, de retraitement, tout ça, ou d'alternatives arrivent moins vite que ce qu'on pense. Et donc oui, il y en a qui se mettent au carton, il y en a qui se mettent au biodégradable, il y en a qui se mettent à tout ça, mais on voit bien que le plastique est encore une matière qui est difficilement remplaçable pour plein de choses, quoi.
Et en Europe, alors comment on se situe par rapport à ça? Vous en avez brièvement parlé, mais...
Alors en Europe, on a deux rôles, c'est d'être encore plus exemplaire, parce qu'aujourd'hui, encore 50 000 tonnes de plastique partent dans les océans chaque année des côtes françaises, donc c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, on devrait arriver à un chiffre proche de zéro. Donc, il faut continuer à se battre. Et puis, il faut réussir à convaincre l'Europe que quand on commande un ordinateur qui génère 1500 kg de déchets à sa fabrication en Asie du Sud-Est et qu'il n'y a pas un centime dédié à la gestion des déchets, bah, c'est pas normal, quoi. Donc on doit se sentir, nous, Européens, concernés par le fait d'acheter ces produits à l'autre bout du monde qui génèrent des déchets et qui polluent les océans. Et donc, du coup, quand on va voir l'Europe qui nous dit bah, nous, on file 2-3 milliards à ces gens-là, ils vont se débrouiller avec, bah, c'est pas suffisant. Il faut c'est une problématique où il faut des centaines de milliards sur la table pour pouvoir résoudre le problème. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, on a été capable de débloquer la 3 000 milliards pour sauver des millions de vies sur le Covid, et c'était une bonne chose. Ben, il me semble qu'on doit être capable maintenant de sortir les mêmes sommes pour sauver l'humanité de ces désastres écologiques qui nous attendent, comme la pollution des océans et le réchauffement climatique.
Ça fait, on va reparler de ces questions de financement. Donc, vous avez lancé cette association de Sea Cleaners. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà, voilà, qu'est-ce que c'est comme association? Ouais. Combien de gens travaillent, œuvrent pour cette cause-là à travers cette association?
Alors, Sea Cleaners, c'est aujourd'hui une association qui a 5 ans, qui est devenue la plus grosse association française sur la protection des océans en France, qui aujourd'hui a 33 salariés, c'est 1500 bénévoles, qui est implantée en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, qui a 8 pôles et qui aujourd'hui va construire des bateaux et qui vont permettre de collecter les déchets plastiques en mer.
Voilà, et donc ça, vous essayez de le faire avec, en proposant des solutions concrètes, avec notamment le projet Manta. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Donc on a inventé, en fait, avec nos ingénieurs, le Manta, qui est un bateau assez révolutionnaire, de 56 mètres de long, 26 mètres de large, qui peut collecter 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. Et pour ça, bah, on a mis 60 ingénieurs autour de la table, en interne et en externe, en s'alliant à des grandes entreprises françaises comme Air Liquide, Altran, le CEA, etc. Et donc, on a mis toute cette bonne graine de génie qu'on a en France au service de ce projet pour inventer à la fois un bateau qui est capable de collecter, mais qui a une propulsion avec des énergies renouvelables, puisqu'il n'utilise que le vent et le soleil pour se déplacer, et puis surtout qui est capable de recycler, de traiter les déchets plastiques à bord, pour en faire, faire de ce plastique de l'énergie qui va servir au Manta. Et donc on est dans un circuit court, le plus court possible qu'on puisse imaginer, on ne peut pas faire plus court que ça. Et donc du coup, notre empreinte carbone est relativement faible, on est sur un bateau éco-conçu, construit en acier, qui peut être recyclable à 85%. Donc voilà, on a essayé d'imaginer un projet cohérent du début à la fin. Pas simplement de se dire on va collecter des tonnes de plastique et ça va être impressionnant. Non, c'est faut le faire, mais avec une ambition d'empreinte carbone qui soit la plus raisonnable possible.
Quel volume de déchets alors est-ce qu'il est capable de collecter ce bateau?
Alors sa capacité de collecte est de 5 à 10 000 tonnes. Quand on met 300 mantas à l'eau dans 300 estuaires, ça fait quand même un tiers de la pollution mondiale, donc c'est pas rien. Et puis surtout, le manta, il peut faire autre chose que simplement collecter. Il va faire de la sensibilisation, il va s'arrêter une semaine par mois dans les ports comme Singapour, Bali, etc. pour aller expliquer que nous, on aimerait ne pas revenir avec le manta, qu'on aimerait que notre action, que de se décarcasser, de se retrousser les manches, fait en sorte que ils comprennent mieux les enjeux, qu'on puisse mettre avec eux des outils sur place pour que les déchets soient mis dans les poubelles et qu'ils ne soient plus mis dans la nature. Et donc peut-être qu'au deuxième passage du Manta, il y aura quelques milliers de tonnes de déchets en moins, et puis ainsi de suite. Et on a vraiment un accompagnement avec nos équipes, parce qu'on a autant de monde sur l'eau que sur terre. Et puis sur le Manta, on a aussi des scientifiques. On aura 8 à 12 scientifiques qui vont analyser chaque morceau de plastique qui remonte à bord. Il se trouve qu'on n'a aucune donnée sur les macro-déchets plastiques qui sont dans les océans aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucun bateau qui existe pour collecter ces déchets. Et là, pour la première fois, avec le et les mantas, on pourra donner l'opportunité à ces scientifiques de vraiment analyser les plastiques et de mieux partager ces données avec la communauté scientifique, qui va permettre d'améliorer les collègues, qui va permettre de mieux comprendre l'océan dans lequel on évolue. Donc tout ça, c'est forcément bénéfique. Et donc le Manta, c'est ça, c'est un outil qui permet, qui est un multifonction, c'est un couteau suisse qui fait plein de choses et qui va servir la cause.
On en est où alors du développement de ce Manta aujourd'hui?
Alors le développement du Manta, c'est 50 000 heures d'études. On arrive en phase finale, hein, puisque le bateau sera prêt à construire à la fin 2022. On a fait à peu près la moitié du chemin sur la levée de fonds. Il faut lever encore 20 millions d'euros et on a encore 2-3 ans pour réussir cette levée de fonds et faire en sorte que le premier Manta soit mis à l'eau et que ça soit après un exemple.
Vous en parliez tout à l'heure, c'est un enjeu dans le développement durable, la question du financement.
Ah bah oui. Pour vous donner un chiffre clé, le développement durable à travers les dons en France, ça représente 6% des dons. On n'a eu aucun doute sur le fait qu'il fallait sortir 3 000 milliards pour pour sortir du Covid et économiser des millions de vies, bah, voilà, faisons la même chose pour le réchauffement climatique et la protection des océans. Quoi.
Merci, Yvan Bourgnon.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction de Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.